spéciale parce que on va avoir des baptêmes. Comme qu'on le sait, des baptêmes, ça représente que des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont engagés à le suivre. Mais aujourd'hui, on va regarder certains passages des Écritures qui parlent à propos du baptême. Mais au début de la, comme cela, je vais vous poser une question. Le baptême, en l'an 2020, à quoi ça peut bien servir qu'on se fasse baptiser en l'an 2020? Pourquoi qu'au 20e siècle, il y aura du monde qui cherchera à se faire baptiser dans le contexte qu'on vit présentement? La majorité du monde ont balancé Dieu. Pourquoi qu'il y a des gens qui sont arrêtés à quelque part puis qui ont décidé de se faire baptiser? C'est la question. Pourquoi que ça arrive encore aujourd'hui? Y a-t-il encore des gens qui s'intéressent aux choses religieuses de voilà 2000 ans? C'est ça les questions. Parce que le monde, quand il nous regarde, pourquoi faire qu'on va à l'église? Pourquoi faire qu'on se fait baptiser? Pourquoi faire qu'on déciderait de suivre Dieu? Pour que quelqu'un s'intéresse à cela, mais il faudra qu'il ait trouvé une bonne raison de le faire. Est-ce qu'encore aujourd'hui, de bonnes raisons de suivre Dieu, de se faire baptiser, de s'engager devant lui, à le servir, à le suivre. Y a-t-il des bonnes raisons à l'an 2020 de le faire? C'est ça qu'il faut répondre, parce que les gens, ils se posent des questions, puis ils savent pas pourquoi qu'on est là, pourquoi qu'on fait cela. Mais ceux qui l'ont fait savent pourquoi qu'ils l'ont fait, ce choix-là, puis pourquoi qu'ils sont là. Amen. La pratique du baptême, ça a commencé il y a 2000 ans. Ça n'existait pas avant, mais depuis ce temps-là, il y a 2000 ans, il y a du monde qui se font baptiser sur la planète. Puis c'est Jean-Baptiste qui a commencé ça. Jean-Baptiste, il a une révélation, puis il a été choisi par Dieu, il était rempli du Saint-Esprit dès sa naissance, c'est un gars spécial, choisi par Dieu pour une mission spéciale, qui est écrit de lui dans l'Ancien Testament, qui annonçait que quelqu'un viendrait comme faire un job de bulldozer, pour aplanir le terrain, pour laisser la place afin que Jésus vienne dans ce monde. Jean-Baptiste a commencé son ministère en baptisant les gens. Il commençait à dire à tout le monde de se faire baptiser. C'est de même qu'il a commencé son ministère. C'est une mission pour Dieu, mais c'est un préparatoire au grand mouvement de réveil qui est commencé depuis ce temps-là à travers Jésus. Dans Luc chapitre 3, le verset 3, on va voir que Jean-Baptiste, sa mission, c'était quoi? Il alla dans tout le pays et les environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. C'est que Jean-Baptiste, il est parti en baptisant les gens, puis c'était le baptême de repentance. C'est un baptême pour amener les gens à se repentir face à Dieu. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, se repentir. Repentir, ça veut dire se détourner, changer de direction. Autant qu'avant qu'on connaisse le Seigneur, on marchait dans nos idées, dans nos pensées. On marche dans ce monde en faisant notre propre volonté. Puis là, on marche dans désobéissance à Dieu. Puis là, on est tout croche. On est dans le péché par-dessus la tête. On fait tout ce qui nous passe par la tête. Puis là, quand tu as un appel à te repentir, c'est que tu as un appel à changer de direction. Un appel à dire, là, avant, je vivais selon mes idées, à cette heure, je change de vie, je veux suivre comme Dieu me le demande. Je veux marcher dans les voies de Dieu. Mais ce détour-là, ça s'appelle de la repentance. C'est de faire un 180 degrés. Tu reviens de bord, puis là, tu veux plus marcher dans tes idées, puis dans tes convoitises, puis dans tes péchés. Là, tu veux marcher dans l'obéissance au Seigneur. Fait que Jean-Baptiste, il appelait les gens à se faire baptiser, puis là, soyez baptisés, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, ça veut dire changez de vie, changez de direction, tournez-vous vers Dieu, acceptez Dieu dans votre vie, soyez pardonnés de vos péchés, parce que le but du baptême de la repentance, ça le dit dans ce verset-là, il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, la remission des péchés? C'est que Dieu, il proposa aux gens de leur remettre leur dette. la dette de péché, qu'elle soit effacée. Ça, le mot rémission, c'est libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement, mais une rémission, c'est aussi oublier ou pardonner des péchés, comme s'il n'y aurait jamais été existé. Si tu passes devant le juge, puis le juge, il te remet ta dette, là, c'est qu'il ne te donne aucune sentence. T'es libre. C'est comme tu n'as plus à payer pour cette dette-là, est effacée cette dette-là, puis c'est fini. Tu n'auras pas de problème sur cette dette-là quand tu passes en cour. Mais devant Dieu, c'est la même affaire. Jean-Baptiste est envoyé, il disait en prêchant de se repentir, puis tous les gens qui se détournaient de leur mauvaise vie, puis qui se faisaient baptiser, étaient pardonnés de leurs péchés. Puis Jean-Baptiste, dans son message, il ajoutait, il va venir quelqu'un après moi, qui est plus grand que moi, puis lui, ça va être lui qui va baptiser du Saint-Esprit de feu. C'est lui qui va vous sauver. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui va enlever le péché du monde. Fait que la repentance était pour préparer les gens à se tourner vers Dieu, puis attendre le Messie. Ils mettaient leur foi dans le Messie qui était à venir. Puis c'était ça le but de la repentance. Des gens de tout ce territoire-là se tournaient à la prédication de Jean-Baptiste, se tournaient vers Dieu pour accepter Dieu dans leur vie puis croire au Messie qui s'en venait. Amen.
Amen.
Les gens, dans ce temps-là, ils ont compris le message. Ils ont réalisé qu'est-ce qui se passait. Il y en a une multitude qui s'est tournée vers le Seigneur pour se repentir, pour demander pardon au Seigneur. Il avait compris quelque chose dans le message de Jean-Baptiste. Tous ces gens-là, ils ont compris que c'était nécessaire de s'engager à suivre Dieu si tu veux être pardonné. Parce que si tu continues à vivre dans ta vie de péché, puis tu demandes pardon à Dieu, ça marche pas, là. Tu es encore dans tes péchés le lendemain, puis le surlendemain. C'est qu'il faut que tu sois décidé à vouloir changer de vie. Tu te repens. Ça veut dire que tu te détournes, puis là, tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je crois que tu me donnes ton pardon, puis là, maintenant, je veux croire en ton Messie, puis marcher avec le Messie, qui est Jésus. Les gens avaient compris, quand quelqu'un répond à cet appel-là, là, quand tu arrives et tu dis, oui, je veux me repentir, je veux changer de vie, tu viens de comprendre quelque chose. C'est qu'on est tous des pécheurs. Parce que si tu n'as pas compris que tu es un pécheur, tu comprends pas pourquoi il faudrait que tu te tournes vers Dieu. Tu vas continuer à en faire des péchés, tu comprends même pas que tu continues à faire des péchés. Pire que ça, tu vas faire des péchés, puis tu vas te ramasser en enfer à la fin, puis tu n'auras même pas compris pourquoi tu es rendu là. Mais le départ de cela, c'est qu'il faut réaliser qu'on est tous des pécheurs. La Bible, elle dit, dans Romains 3:10, ça nous le dit, selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tout le monde sont dans le péché présentement. Tout le monde a fait des péchés, puis nos péchés nous empêchent d'entrer au ciel, dans la vie éternelle. C'est ça qui est le point. Fait que quelqu'un qui décide de se repentir, c'est parce qu'il a réalisé qu'il était pécheur. Il ne voulait pas se ramasser dans être jugé par Dieu. Il veut changer de vie pour faire la paix avec Dieu. Se tourner vers Dieu en demandant pardon à Dieu, parce que les gens qui se repentaient, ils avouaient qu'ils étaient pécheurs, puis là, ils mettaient leur foi dans le Messie qui s'en venait, le Messie qui était pour enlever les péchés de tout le monde, puis là, ils se repentaient, puis là, ils s'engageaient à suivre le Seigneur. C'est ça le chemin de la nouvelle vie que Dieu nous donne en Jésus. Parce qu'il y a des conséquences graves à cause des péchés qu'on pratique, même quand tu es chrétien. La Bible a dit que tout le monde a péché, puis ça fait qu'on est privé de la gloire de Dieu. C'est écrit dans Romains 3, le verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si on veut rentrer dans la présence de Dieu pour l'éternité, c'est là où ce qui est sa gloire. On va rencontrer Dieu, on va le voir de nos yeux, on va être au ciel, on va être dans sa présence, mais pour y arriver, faut que tu règles le problème de tes péchés. Faut que ça s'enlève dans ta vie. Il n'y a pas d'autre moyen que d'entrer. Même si tu pratiqueras une religion, puis tu seras à ton église à tous les jours, ça pardonne pas les péchés qu'on a faits à Dieu. Ce que les humains ont besoin, c'est un pardon qui vient de Dieu. Parce que quand on a péché contre Dieu. Ça arrive qu'on fait du mal à notre prochain. Dans ce temps-là, il faut aller voir notre prochain et demander pardon à notre prochain. Mais des péchés qu'on parle là, c'est les péchés qu'on a faits à Dieu. Puis il y a un seul moyen que Dieu nous a donné pour qu'on puisse être pardonné, puis c'est à travers son Fils Jésus-Christ. Le péché, c'est tellement grave. C'est tellement grave que la Bible, elle dit que Dieu va punir le péché. Puis ça nous dit aussi qu'il va punir le péché par la mort éternelle. Ça nous dit, dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Même si t'es vivant aujourd'hui, on parle pas de la mort physique, tout le monde va mourir physiquement. On parle de la mort éternelle, de la mort qui est d'être séparé d'avec Dieu pour l'éternité, être rejeté de la présence de Dieu. Le salaire du péché, si on reste dans le péché, puis qu'on aime le péché, puis qu'on veut faire du péché, on veut garder le péché, mais on va récolter un salaire, ce salaire-là, c'est la mort. Puis je crois pas qu'on veut se rendre là. Je crois qu'on veut être sauvé et qu'on veut changer de vie. C'est pour ça que Dieu nous a donné son Fils Jésus, pour qu'on puisse être pardonné. Si on continue dans ce verset-là, c'est ça qui est le beau de la bonne nouvelle. Parce qu'on parle souvent de l'Évangile. Le mot Évangile veut dire bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle du Nouveau Testament? Mais la bonne nouvelle, c'est que même si on a fait des péchés, on est dû pour la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est que Dieu nous a envoyé le seul moyen pour qu'on puisse être pardonné. Ce moyen-là, c'est son Fils Jésus. Dans Jean 3, 16, ça dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyez-vous, là on commence à découvrir là, c'est quoi qui est, pourquoi que le monde se ferait baptiser à l'an 2020? Pourquoi qu'on on accepterait de se tourner vers Dieu? Mais c'est parce qu'on a compris quelque chose. Jésus est venu v'là 2000 ans, puis on peut pas nier cela. Il y a des faits historiques qui sont écrits dans des livres que les historiens de ce temps-là, qui n'étaient pas chrétiens, qui ont écrit à propos de l'histoire de Jésus. Mais encore plus que ça, on a encore les écrits de Jésus qui sont écrits dans le Nouveau Testament, qu'on a des mains aujourd'hui. On peut lire le Nouveau Testament, voir l'enseignement de Jésus, puis comprendre profondément ce que Jésus a dit à propos d'être sauvé, d'aller dans la vie éternelle. En passant, tout le monde va vivre l'état éternel, mais ce ne sera pas tout le monde qui va être dans la vie éternelle. Être dans la vie éternelle, c'est avec Dieu. Mais la Bible parle aussi de la mort éternelle, qui est le salaire du péché. Que si on rejette le seul moyen que Dieu a donné pour être pardonné, si on dit, moi, j'ai pas besoin de ça, je m'occuperai de ça plus tard si j'ai le temps, ou achale-moi pas avec ça, peu importe comment est-ce qu'on réagit face à Jésus. Si on l'a pas reçu, on meurt dans nos péchés, puis après ça, c'est le jugement qui nous attend par Dieu. Après la vie, ils tous vont ressusciter, on va tous comparaître devant Dieu, sauf que ceux qui sont sauvés, ils vont rentrer dans la vie éternelle, puis les autres vont être rejetés de Dieu éternellement. Mais Dieu, il a une bonne nouvelle, il veut nous donner un cadeau gratuit en Jésus. Le cadeau d'avoir la vie éternelle, c'est un cadeau qu'il nous donne. On ne l'avait pas avant de recevoir Jésus. C'est quand on se repent, qu'on change de vie, que là, il nous donne Jésus, puis qu'on est pardonné, puis qu'on peut avoir l'assurance qu'on a la vie éternelle. On a de l'avenir devant nous. Oui, peut-être sur la terre, il ne me reste pas grand temps à vivre, mais après ça, il en reste longtemps à vivre. Une vie sans fin. Avec le Seigneur et avec tous ceux qui vont être sauvés. Puis il va en avoir des milliards. Il ne faut pas manquer cela. C'est comme s'il y avait un autobus à prendre. Manque pas cet autobus-là. Il n'y a rien qu'un autobus qui se rend là. Rentre dedans, c'est Jésus qui est cet autobus-là qui nous amène au ciel. Le sacrifice de Jésus, parce que Jésus, quand il est mort sur la croix, là, c'était pas pour lui, c'était pas à cause de lui, il aurait pu éviter la croix. Il aurait pu dire, moi, je m'occupe, j'ai pas besoin d'aller mourir à la croix. Moi, il aurait pu, s'il voudrait, à l'autre ligne, qu'il fait un battement de doigts, puis s'en allait direct au ciel. Puis il l'a montré, ça, quand il a monté sa montagne, ceux qui se rappellent du passage, que Jésus était transfiguré. Il était transformé dans son corps qui était pour avoir dans le monde. Il est devenu lumineux, puis il parlait avec Moïse et Élie, qui étaient deux personnes qu'il a sauvées. Il aurait pu partir. Il aurait pu s'en aller. Il était déjà dans la présence de son Père, pleinement sauvé. Jésus a toujours été le sauveur, qui n'a pas besoin de sauveur. Il n'a jamais fait de péché. Il aurait pu s'en aller, mais s'il a décidé de rester, ils ont parlé plus tôt de comment est-ce qu'il devait quitter Jérusalem, comment est-ce qu'il devait vivre son passage de mourir sur la croix. Ça avait un but, c'est annoncé dans les écrits dans l'Ancien Testament. C'est une mission de Jésus d'aller à la croix, puis lui, il n'avait aucun péché, puis il a décidé d'aller à la croix pour payer pour les péchés de tout le monde. Il a pris notre place. Le salaire de mes péchés méritait la mort, mais Jésus, il n'a fait aucun péché, puis il a décidé de subir la mort à notre place. Il est notre substitut. Si on veut, on peut aujourd'hui réaliser qu'il est mort pour moi. J'ai fait beaucoup de péchés, je ne peux pas rentrer au ciel, mais à cause qu'il est mort pour moi, j'accepte qu'il devienne mon sauveur. Je vais être lavé de mes péchés. Il va me pardonner. Il va me donner son Saint-Esprit, puis il va me donner la vie éternelle. Wow! Tout à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Il n'y a pas d'autre moyen que celui-là pour être sauvé. Dans Actes 4:12, ça nous dit qu'il y a juste le sacrifice de Jésus qui peut nous sauver. Ça dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas d'autre manière d'être sauvé. Il y a du salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ en français, mais son vrai nom, c'était Yeshua. Il y a le Messie. Le Yeshua, il y a Mashiach. C'est lui le sauveur. C'est lui qui a payé. Il n'y a pas d'autre nom que son nom. Il ne parle pas d'une religion, là. Il parle d'un nom qui sauve. C'est le nom du Messie qui sauve. Puis c'est quand tu reçois Jésus dans ta vie que tu deviens sauvé. Amen. Les religions, ça sert à rien. C'est les hommes qui ont fait des religions. Même ici, on se réunit pas pour faire une religion. Oui, on a un mode de vie à suivre, parce que quand tu es chrétien, tu as le mode de vie de Jésus à suivre. Tu as les enseignements de Jésus. Tu marches la loi de Christ. Mais c'est pas pour pratiquer une religion, c'est pour développer notre relation avec lui, pour t'approcher de lui, le louer, l'adorer, le glorifier, le servir, pour apprendre à le connaître. Le but de les réunions, c'est cela. Mais c'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on va être sauvé. C'est Jésus qui sauve. On vient à l'église pour glorifier Dieu qu'on est déjà sauvé. Amen. C'est pour ça qu'on est là. Rendre un culte à Dieu. Prendre du temps dans notre vie, tracer toute notre routine, aller à l'église pour aller rencontrer Dieu puis le célébrer avec les frères dans la grande assemblée. C'est ça qui est le but. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui à celui qui se fait baptiser? On en a parlé un peu. Ça nous dit dans Matthieu 5:5 que les gens dans ce temps-là qui croyaient en Dieu, ils voulaient changer de vie pour être sauvés. C'est ça qui est le but. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, en parlant de Jésus, et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ça a commencé avec Jean-Baptiste, puis après ça, Jésus il a baptisé avec ses disciples. Le baptême a commencé dans ce temps-là. Les gens... Au verset 6, ça dit, ils confessaient leurs péchés, puis ils se faisaient baptiser. Faut que tu sois prêt à l'avouer que tu es pécheur. Parce que sinon, si tu dis, moi, j'en ai pas fait de péché, mais tu es en train de dire que Jésus, c'est un menteur, puis Jésus, lui, ce qu'il a fait, ça sert à rien. Jésus est venu pour la raison parce qu'on était des pécheurs. Comme qu'on a vu tantôt, il n'y a point de juste, pas même un seul. Puis c'est écrit aussi que tous ont péché, fait qu'on est inclus là-dedans. Puis si on est prêt à l'avouer, on est prêt à se faire baptiser. Les gens confessaient leurs péchés puis se faisaient baptiser pour être pardonnés. Depuis le temps de Jésus, il y a des millions de personnes qui ont été baptisées, qui ont pratiqué le baptême pour s'engager à suivre Jésus. Des millions. Il y en a présentement 5 à 600 millions présentement qui vivent. Mais là, on parle depuis le début de Jésus, il y en a des milliards qui ont accepté Jésus. On ne sait pas combien, mais il va en avoir du monde sauvé l'autre bord. Mais le pire de l'histoire, c'est qu'il va y avoir encore plus de monde que cela qui ne le seront pas sauvés. Parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas accepté Jésus pour être pardonné. Peu importe la nationalité, peu importe la religion, si tu ne suis pas Jésus, il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour qu'on puisse être sauvé. Maintenant, quelles sont des promesses rattachées à la foi en Jésus? On en a parlé un peu tantôt, mais on va regarder certains passages qui nous confirment ce qu'on a dit. Qu'il y a des promesses que Jésus donne à celui qui s'engage à le suivre. Marc 16, 16, ça nous dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Là, on parle de la Bible, on parle de la parole de Dieu, c'est pas moi qui ai écrit ces versets-là. Là. C'était écrit par les ceux qui ont vu Jésus, qui ont entendu Jésus, c'est les apôtres qui ont écrit la Bible, le Nouveau Testament. C'est des témoins oculaires. Ils ont pris ce qu'ils ont entendu de Jésus, c'est Jésus qui a dit cette phrase-là. Ils l'ont écrit, qu'on l'ait aujourd'hui. Que si on croit en Jésus, si on croit qu'il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, puis qu'on s'engage à suivre Jésus, on se fait baptiser, on s'engage à le suivre, mais il dit, on va être sauvé. Mais celui qui croit pas sera condamné. Pourquoi? Parce qu'on est dans nos péchés. Nos péchés sont encore sur nous, on est encore tout sale devant Dieu, puis notre âme qui est souillée par nos péchés, mais on peut pas rentrer dans la présence du Dieu saint. Il faut absolument passer par cette purification-là en croyant puis en s'engageant à suivre Jésus en se faisant baptiser. L'apôtre Pierre, lui, quand il a prêché à la foule, là, au début, quand Jésus il a parlé à ses disciples, puis là, pendant 40 jours après sa mort, il parlait avec ses disciples, puis là, Jésus a monté au ciel, puis après ça, les disciples, ils ont prié pendant 10 jours de temps pour être baptisés du Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, Pierre sort dehors pour aller prêcher, il y avait une foule dehors parce que c'était une fête à Jérusalem, puis il y avait plein de monde de Juifs qui venaient à la fête de la Pentecôte à Jérusalem, puis c'était des Juifs qui venaient de tous les pays autour, puis ils venaient à la grande fête parce que c'était une grande fête à la Pentecôte. Puis Pierre est sorti sur le perron, puis il était sur un deuxième étage, puis il a commencé à prêcher à la foule, puis la foule était touchée d'entendre les paroles que Pierre disait, puis ils ont tous compris le message qu'il fallait qu'ils s'engagent à suivre, mais sauf qu'ils ne savaient pas quoi faire. Puis ils ont demandé à Pierre, « Qu'est-ce qu'on va faire? » Pierre lui a dit, « Comment faire pour être sauvé? » Il dit, « Repentez-vous! » C'est ça que je vous ai dit tantôt, là, la repentance, c'est de décider de changer de vie. C'est de lâcher de vivre dans le péché, puis de dire, je ne veux plus vivre ma vie de péché, maintenant je vais obéir au Seigneur. C'est ça la repentance, c'est de se revirer. Fait que Pierre lui a dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça veut dire que quand tu dis, je veux suivre Jésus, mais automatiquement, tu t'engages à te faire baptiser. C'est comme si le baptême, c'est ton premier pas d'obéissance au Seigneur. Pour démontrer au Seigneur que tu veux le suivre, tu te fais baptiser. Tu veux changer de vie? C'est bien beau de dire, Seigneur, je veux changer de vie, mais je veux pas faire ce que tu me demandes. Mais là, on montre pas qu'on veut changer de vie, on montre qu'on est encore pareil comme avant. Mais tu veux être sauvé? Il dit, repens-toi, ça veut dire, détourne-toi, puis sois baptisé au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça te donne si tu le fais? Pour le pardon de vos péchés. Ça veut dire que même si tu étais le plus pire pécheur de la planète, Même Hitler, s'il s'aurait repenti, il a tué du monde, lui. Même Hitler, s'il s'aurait repenti puis s'aurait engagé à suivre Jésus, aurait été pardonné de tous ses péchés. Si lui aurait pu être sauvé, l'apôtre Paul, c'est un tueur de chrétiens. Il a été sauvé. Il y en a d'autres qui ont fait toutes sortes de péchés avant d'être sauvés. C'est sûr, des fois, on dit, ben moi, je pense que je suis un trop grand pécheur pour que Dieu me pardonne. Faut pas que tu croies cette menterie-là, c'est une menterie. Le fait, la réalité, c'est que peu importe le péché que tu as fait, tu peux être pardonné aujourd'hui. Il y a juste un péché que Dieu pardonnera pas. C'est quand il va arriver le système de la marque de la bête. Il y en a un autre si tu as blasphémé Dieu. Mais ça, on n'est pas dans ces catégories-là. On n'a pas blasphémé Dieu, on n'a pas reçu la marque de la bête. Ça veut dire, peu importe si tu aurais été un meurtrier, un adultère, un voleur, un menteur, que tu n'en as pas ton père et ta mère, puis que tu convoites le stock de ton voisin, puis tu marches dans le péché par-dessus la tête. Si tu te repens aujourd'hui, tu peux être pardonné de tous tes péchés. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Puis ça, les chrétiens, il faut s'en rappeler que si tu confesses tes péchés au Seigneur, t'es pardonné, t'as pas besoin de marcher d'une culpabilité. Tu sais que t'es pécheur, tu l'avoues ton péché, puis te pardonne. Si tu confesses ta faute, Dieu te pardonne. Parce que Dieu, il est bon. Mais il passe pas à travers en changeant d'autres manières. Si tu, mettons, dis, mais moi, je vais essayer d'être sauvé à ma manière. Puis d'être pardonné à ma manière. Moi, je connais quelqu'un qui m'avait dit, moi, le matin, j'arrive devant mon lavabo, je me lave les mains, puis j'ai lavé tous mes péchés. C'est pas écrit dans la Bible, ça, là. Mais c'est vrai qu'il y en a qui croient n'importe quoi pour être pardonné. Ils s'inventent des idées, puis ils pensent que Dieu va les accepter. C'est pas à Dieu accepter nos idées, c'est à nous accepter les idées à Dieu. Il faut faire ce qu'il a déjà dit, qui est écrit dans sa parole. Il faut suivre sa parole jusqu'à la fin. Amen. Il lui a dit, repentez-vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il appelle ça un don parce que c'est un cadeau. Tu ne peux pas mériter le Saint-Esprit. Tu ne peux pas le forcer à rentrer dans ta vie. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand on parle de Dieu, là, si tu dis Dieu le Père, si tu dis Jésus ou si tu dis Saint-Esprit, tu t'adresses à Dieu. C'est Dieu. Fait qu'il dit, si tu te repens, puis tu t'engages à suivre Jésus, il te pardonne, puis en plus, Dieu va venir entrer dans ta vie. Puis ta vie va changer par la présence de Dieu qui est là. Parce que tu t'es engagé à suivre Jésus. C'est-tu pas beau comme promesse? On se demandait tout à l'heure la question, y a-tu une bonne raison pour laquelle quelqu'un décidera de se faire baptiser à l'an 2020? Il y en a des bonnes raisons. On veut être pardonné. On veut avoir la vie éternelle. On veut avoir le Saint-Esprit. On veut être sauvé. Ça, on s'engage à suivre. Le Seigneur, y a-tu de quoi de plus grand comme promesse? Même si quelqu'un vous dit, demain, là, tu vas avoir une ticket gagnant pour gagner 1 million, c'est rien comparé à dire que tu as la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner en échange pour avoir la vie éternelle? Ben, le Seigneur dit, donne-moi ta vie. Engage-toi à me suivre. C'est pas un gros prix, tu vas juste lâcher ta vie de péché. Ta vie de débauche. La vie qui t'emmène dans les temps de feu. Puis là, tu vas dire, tu vas recevoir le pardon, tu vas recevoir la vie éternelle, tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas être une nouvelle personne. C'est ça qu'on disait au début de la réunion, de naître de nouveau. Tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature, parce que Dieu est entré dans ta vie. Ça nous dit, au verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, puis pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Cette promesse-là d'être pardonné puis de recevoir le Saint-Esprit, avoir la vie éternelle, mais c'est à tout le monde, à nous, à nos enfants, puis à tous ceux qui sont autour. On est dans les plus loin, là, on est dans la fin des temps, puis on est ici à Beauharnois, est complètement à l'opposé de Jérusalem, fait qu'on est les plus loin qu'il ne pouvait pas y avoir au Québec, mais la bonne nouvelle est venue jusqu'ici, puis on peut être sauvé aujourd'hui, puis on l'a déjà reçu, puis on invite tout le monde autour à le recevoir, d'être sauvé, d'être pardonné, d'avoir la vie éternelle. On a les plus précieuses promesses qu'on ne pourra pas trouver ailleurs. Merci Seigneur. Puis Dieu continue à en appeler d'autres, comme il y en a d'autres qui ont compris, puis ils sont prêts à s'engager à suivre Jésus. Qu'est-ce le baptême? Mais le baptême chrétien, c'est un rituel. Veux, veux pas, c'est une chose qu'on répète, qu'on fait comme un rituel à tout le monde. Tous les chrétiens ont passé par là. C'est commandé par Jésus d'être baptisé. Puis on confesse nos péchés, puis là on se fait rentrer dans l'eau. Parce que le mot baptême veut dire immersion. C'est pas aspersion. Comme que des religions font, ils garochent 2-3 gouttes d'eau dans la face. Ça, c'est une aspersion. Jésus, ce qu'il demande, c'est un baptême. Ça veut dire immersion. Dans l'eau complète. Il y a d'autres passages qui disent que Jean-Baptiste, lui, baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Il aurait pu baptiser n'importe où avec un verre d'eau. Mais c'est pas ça. Il allait dans la rivière, où il y avait beaucoup d'eau, pour plonger les gens dans l'eau, comme ça serait un sous-marin qui descend dans l'eau. C'est ça qu'il y en a qui vont faire le sous-marin tantôt. On va descendre dans l'eau complète. Puis ils vont être baptisés. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire immersion. On a tout passé par là. Mais on les reste pas longtemps. Le baptême par lui-même, ce qu'il faut comprendre, le baptême par lui-même, il sauve pas. C'est pas le baptême qui va vous sauver. Tu peux avoir été baptisé 50 fois puis pas être sauvé. Si tu crois pas dans ton cœur, c'est-à-dire, on a vu, si tu crois, celui qui croira et qui sera baptisé. Si tu crois pas, ça sert à rien. On avait tous été baptisés à naissance par une religion, parce qu'on vit au Québec. Ça sert à rien, ce baptême-là, on croyait pas. Premièrement, c'était même pas un baptême, c'était une aspersion. Mais ce qu'on a vécu, ça sert à rien. Mais le jour qu'on a compris, par exemple, que Jésus est mort pardonner nos péchés, puis on se repent, puis on se détourne de notre mauvaise vie, puis qu'on accepte Jésus, là, il se passe quelque chose. Tu te fais baptiser dans l'eau, tu t'es vraiment engagé pour être sauvé. Amen. Le baptême, ça sauve pas, mais c'est un acte d'obéissance quand même. Ça, c'est comme si tu démontres ton engagement. C'est ton premier pas d'obéissance. Tu démontres ton engagement à Dieu. Puis c'est l'engagement à Dieu qui va te sauver. Parce que tu peux croire que Jésus est mort pour pardonner tes péchés. Tu peux y croire, puis pas le recevoir. Tu peux y croire, pas vouloir être engagé. Tu seras pas sauvé. Ça prend plus que ça. Faut que tu y croies, puis il faut que tu veuilles changer de vie. Puis là, tu t'engages à le suivre. C'est ça, c'est là que tu vas être sauvé. C'est quand tu suis le Seigneur, c'est l'engagement qui fait que tu es sauvé. C'est un engagement de vivre d'une bonne conscience envers Dieu. C'est écrit dans 1 Pierre 3:21. Dans ce contexte-là, ça nous parle que c'est un exemple que le baptême avec l'arche de Noé, quand la terre est ensevelie d'eau. Puis là, il parle de l'arche de Noé, puis après, il dit cette eau, c'est une figure du baptême. Quand l'eau avait couvert la planète au complet. C'est pas une purification des souillures du corps. Fait que le baptême, c'est pas de nous purifier. Le baptême purifie rien. Il sauve pas le baptême. Mais c'était l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est parce que tu t'engages à marcher droit avec le Seigneur, c'est ça qui va te sauver. Tu crois au Seigneur, puis tu veux le suivre. C'est ça qui sauve. Et maintenant, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de Jésus qui nous sauve. C'est son sang qui a déversé à la croix qui nous sauve. C'est son sacrifice qui nous sauve. C'est pas le baptême. Fait que si un jour, on demande à quelqu'un qui s'est fait baptiser, on lui dit, pourquoi faire tu fais baptiser? Ben, parce que je crois que Jésus est mort pour pardonner mes péchés. C'est ça qui est le but. Pas parce que j'ai pratiqué le baptême puis je me suis fait baptiser 50 fois, ça sauve pas personne. C'est parce qu'on croit que Jésus est mort pour pardonner nos péchés, puis là maintenant je veux le suivre, je veux le servir, c'est ça qui fait que tu es sauvé. C'est une prise de position publique le baptême, c'est comme si tu veux montrer à tout le monde que tu t'es engagé à suivre Jésus, tu le démontres publiquement. Dans ce temps-là, c'est la même chose qu'on devrait faire aujourd'hui. Ça dit dans Actes 2, 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. T'attends pas 5 ans avant de te faire baptiser. T'as juste besoin de comprendre un peu, là, on fait un petit cours de préparation au baptême qui dure 1 heure. On explique des versets, comme que je suis en train de faire là, puis vous pourriez tous vous faire baptiser à la fin de la prêche si vous êtes repentant. Mais vu que vous l'avez déjà été baptisé, on ne vous rebaptisera pas une deuxième fois. Mais l'idée, c'est, si vous comprenez à quoi ça sert le baptême, que c'est pour démontrer à tout le monde que tu veux suivre Jésus, ben, t'es prêt à te faire baptiser si t'es prêt à suivre Jésus. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir du monde dans la salle aujourd'hui, là, qui viennent de catcher, qui viennent de comprendre, bon, c'est pour ça qu'il faut suivre Jésus, pour être sauvé, avoir le pardon de mes péchés, avoir la vie éternelle, recevoir le Saint-Esprit, puis si vous réalisez ça, que vous êtes prêt à le suivre, là, vous pourriez vous faire baptiser aujourd'hui même avec les autres.
Amen.
Ça dit que cette journée-là et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. 3000 personnes qui se sont faites baptiser cette journée-là. Ça devait être super à voir. Tout en ligne, là, un par un, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sont tous baptisés. Ils devaient avoir mal dans l'épaule à la fin, mais... Le baptême, c'est le commencement de l'obéissance envers Dieu. Ça doit être pratiqué au début de la nouvelle vie avec Jésus. Comme je disais tantôt, pas besoin d'attendre. Tu viens de l'accepter, tu veux être sauvé, tu peux déjà être baptisé. On voit un exemple de ça dans Actes 8, 36 à 38. Il y avait un évangéliste qui était en train d'évangéliser, puis là, il était conduit par le Seigneur à aller dans le désert. Puis pendant qu'il était dans le désert, il a rencontré un surintendant, le surintendant de la reine d'Éthiopie, qui était là dans le désert avec sa troupe, puis il était assis dans un char, puis lui, il était conduit par le Seigneur à se rendre là, puis quand il est arrivé là, il était en train de le voir, en train de lire la Bible. Là, il a dit, « Tu comprends-tu ce que tu lis? » Il dit, « Comment je pourrais comprendre si personne me guide? » Puis là, il l'a invité à rentrer, à s'asseoir avec lui. Puis là, il a commencé à y expliquer ce qu'il est en train de lire. Puis là, il a compris que Jésus, c'était le Sauveur. Puis il voulait se faire baptiser. Le gars était prêt à accepter Jésus tout de suite, là. Il venait de l'entendre la première fois. Puis tout de suite, il voulait se faire baptiser. Puis ça dit, comme il continuait, ils rencontrèrent de l'eau. Puis l'eunuque dit, parce que c'est un eunuque, le gars, « Voici de l'eau. » Qu'ai-je qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'être baptisé? Mais Philippe, qui était l'évangéliste, il a dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela y est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il croyait, il était prêt. Ça dit, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, puis Philippe baptisa l'eunuque. Tout de suite, quand t'es prêt, tu sais, tu comprends, t'es prêt. Vous pourriez décider aujourd'hui même de vous faire baptiser si vous êtes prêt à suivre Jésus. Si vous croyez qu'il est mort pour pardonner vos péchés, vous êtes des candidats à devenir disciples du Seigneur. Le baptême, c'est un symbole qui démontre ce qui s'est produit dans votre vie par l'action du Saint-Esprit. Parce que quand tu confesses à Dieu, « Seigneur, je suis un homme pécheur, pardonne-moi », puis là, tu dis ta prière, puis je crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner mes péchés, puis je m'engage à te suivre. Quand tu fais une prière comme ça, là, Seigneur t'entend, puis à partir de ce moment-là, tu es pardonné. La Bible a dit que quand tu t'engages à suivre Jésus, là, l'ancien là, Daniel Poulain, là, avant qu'il se repente, là, l'ancien Daniel Poulain qui avait une montagne de péché, l'ancien Daniel Poulain, la Bible a dit, il y a comme un exemple avec la vie, la mort de Jésus puis sa résurrection. Jésus, il était mort pendant 3 jours, puis après ça, il est sorti du tombeau le 3e jour, ressuscité. Mais il y a un peu le même exemple pour quelqu'un qui est pardonné de ses péchés. C'est comme l'ancien Daniel Poulain, il était enseveli avec Jésus. Il est mort avec Jésus, il est enseveli, enterré. On n'en parle plus de l'ancien Daniel Poulain. Il est mort. Là, il y a une nouvelle vie qui commence, le nouveau Daniel Poulain. Toutes choses sont devenues nouvelles. T'es en Jésus, il y a une nouvelle vie qui commence, c'est comme si je viens de naître de nouveau. Je viens de naître une deuxième fois. Je suis un nouveau Daniel Poulain, mais avec la présence de Dieu dans ma vie. Il n'y a plus aucun péché sur le coup, là. C'est sûr que le lendemain, je vais peut-être en refaire d'autres. Pas peut-être, c'est sûr, j'en refais d'autres. Mais je vais continuer à demander pardon à chaque jour. Mais je demeure sous le sang de Jésus parce que je demande pardon, puis je reste en lui, je reste connecté, il continue à nous pardonner. Mais là, là, l'ancien Daniel Poulain, il est enseveli avec Jésus, puis on est ressuscité en nouveauté de vie. Mais le baptême, ça représente cet exemple-là. Quand on coule la personne au fond de l'eau, c'est quand elle est au fond de l'eau, c'est comme si elle est enterrée avec Jésus. Quand on la sort de l'eau, c'est comme si elle vient d'être une nouvelle personne. Le baptême lui-même, il sauve pas. Pas une parabole, mais c'est un exemple ou une comparaison d'avec notre mort en Jésus puis notre résurrection. C'est un symbole, le baptême. On démontre à tout le monde ce qui s'est passé dans notre vie en se faisant baptiser. Je le répète encore, c'est pas le baptême qui sauve, c'est l'engagement de suivre Jésus qui nous sauve. Fait qu'il y a un verset qui nous dit dans Romains 6, 4, nous avons donc été ensevelis avec Jésus par le baptême en sa mort, puis afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Il y a une nouvelle vie qui vient de commencer. Fait que les gens qui vont se faire baptiser vont vous montrer publiquement qu'ils sont déjà des morts en Jésus et ressuscités par Jésus. C'est dans une nouvelle vie, ils sont nés de nouveau. Comme on l'a chanté le premier chant, il faut naître de nouveau si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Il faut passer par là, c'est Jésus qui dit ça. Je n'ai pas lu ce passage-là, mais pour aller le lire dans Jean chapitre 3, le verset 3 à 5. Je finis avec un dernier verset, puis après ça, on va passer au baptême. Mais écoutez bien cette partie-là. C'est ça qui est important pour tout le monde. Comme je vous disais tantôt, tous ont péché. Mais là, maintenant, je vous dis tous, même les gens du 21e siècle, tous sont appelés à la repentance. Dieu veut sauver tout le monde. Mais tu ne seras pas sauvé malgré toi. Il faut que tu en fasses le choix. Dieu n'a pas forcé personne, puis il ne forcera pas personne. C'est une décision qu'on a à prendre. Quand on le sait, on le comprend, on a des actes, des actions à faire, faut se décider. Comme le chant nous dit dans notre chant, « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. » C'est une décision. Tu dois accepter Jésus dans ta vie pour qu'il te pardonne, qu'il te donne le Saint-Esprit, qu'il te donne la vie éternelle, pour qu'il marche avec toi dans cette vie, dans ta nouvelle vie. Mais il appelle tout le monde à la repentance, même les gens 2000 ans plus tard. Pourquoi? Parce que c'est encore le temps d'être sauvé. Dans pas long, mais que Jésus revienne, il va être trop tard. On est encore dans le temps de la grâce présentement. On est à l'an de grâce 2020. C'est encore le temps aujourd'hui d'accepter Jésus comme notre sauveur personnel. Dans Actes 17, les versets 30 et 31, ça nous dit, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Dieu annonce maintenant, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dieu s'attend à ce que tout le monde se repente. Parce qu'il y a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont ce qui en a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus a été désigné par Dieu pour qu'un jour il juge le monde. Puis il y a un jour fixé que ça va arriver où il va juger le monde. En attendant, il nous offre à tout le monde, à tous les hommes, en tout lieu, à nous repentir. C'est pas des farces. Même si tu serais un chrétien, que ça fait 40 ans que tu es chrétien, puis si tu vis dans le péché, tu es encore appelé à te repentir. Tout le monde doit se repentir. Tous, c'est tous. Tous, ça veut dire tout le monde. Quiconque, n'importe qui. Tout le monde doit toujours être dans repentance. puis de croire qu'on se détourne tout le temps du mal pour vouloir suivre Jésus. C'est ça la repentance. C'est ça que Dieu s'attend. Fait que je fais quand même un appel, s'il y en aurait parmi nous, qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Qui voudraient dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de pécher devant Dieu. Je vais obéir à Dieu. Je vais suivre Dieu. Je vais être sauvé. Je vais être pardonné de mes péchés. Je vais avoir la vie éternelle. Si on est dans cet état-là et qu'on veut être sauvé, bien, je vais faire une prière avec vous, tout ensemble, pour je vous demanderai de faire cette prière-là pour recevoir Jésus dans votre vie, pour qu'il vous pardonne et qu'il vous donne la vie éternelle. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, c'est pas devant... Oui, si vous êtes devant moi, mais je vous regarde la peau. C'est pas à moi que vous avez fait cette prière-là, c'est à Dieu. Dieu vous a vu. Puis Dieu tient compte de votre engagement, puis il vous a pardonné de vos péchés. Marchez avec le Seigneur. Servez le Seigneur. Suivez le Seigneur jusqu'à la fin de votre vie. Être prêt à aller jusqu'au bout pour suivre Jésus. Lâchez pas le chemin du Seigneur. C'est la seule voie qui nous mène dans la vie éternelle. Si vous avez fait cette requête, si vous avez fait cette prière-là, levez votre main. Puis, si vous voulez vous faire baptiser, mais demandez-le, on va vous baptiser avec les autres. Il n'y a pas de problème. Ou si vous ne voulez pas attendre une autre journée, pas de problème. Mais engagez-vous à suivre le Seigneur. Amen.